Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin sur ce nouveau webcast dédié à la réforme de la facturation électronique entre entreprises, la réforme e-reporting invoicing. Comme vous le savez certainement déjà, le gouvernement français a annoncé dans un communiqué de presse le 28 juillet dernier le report du calendrier de déploiement de la réforme, indiquant que le nouveau calendrier sera fixé dans le cadre du projet de loi de finances 2024. Un premier projet d'amendement de la loi de finances proposant un nouveau calendrier a été publié le 17 octobre dernier et fixe le report pour l'instant à plus de 2 ans avec une date de démarrage au 1er septembre 2026. Mais cet amendement est sujet à de nombreuses discussions. Dans le même temps, des projets de réforme similaires fleurissent et s'accélèrent partout en Europe et la Commission européenne entend bien rattraper toutes ces initiatives avec la directive VIDA. Donc globalement, ce report ainsi que l'accélération des réformes en Europe impactent fortement les entreprises et les groupes français, qu'ils aient lancé ou simplement inscrit dans leur feuille de route leur projet de mise en conformité. Alors afin de mesurer ces impacts et de comprendre comment les entreprises et les groupes français sont en train de s'adapter, nous avons lancé au cours du mois d'octobre une étude auprès des différents groupes français de tout secteur d'activité de toute taille. Et c'est ce que nous proposons de partager avec vous ce matin. Tout d'abord, en faisant un premier point détaillé sur le probable nouveau calendrier de déploiement de la réforme française et un focus sur la généralisation de ce type de réforme en Europe. Une analyse du résultat de notre étude sur les impacts de ce report avec un focus d'une part sur les grandes entreprises et d'autre part sur les ETI. Et enfin, nous regarderons ensemble comment saisir toutes les opportunités qu'offre ce report. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation et nous y répondrons en fin de session. Je me présente, je suis Virginie Ferret, je suis associée de PwC France, spécialisée en gestion des risques et conformité. Et pour animer ce webcast, j'ai le plaisir d'être accompagnée de nos experts de la réforme. Claire Cubisol, senior manager au sein des équipes consulting de PwC et spécialisée dans l'accompagnement des directions financières. Et Marvin Dose, manager au sein des équipes Indirect Tax Technology de PwC Société d'Avocats, spécialisé dans l'accompagnement des groupes autour des enjeux e-reporting et invoicing et dans l'analyse de la conformité data. Pour commencer, nous vous proposons de refaire un point détaillé sur le probable nouveau calendrier de déploiement de la réforme française et un focus sur la généralisation de ce type de réforme en Europe avec Marvin.
Effectivement, bonjour à tous. Donc, comme effectivement Virginie le rappelait, donc on a eu un communiqué de presse cet été indiquant un report de la réforme et puis un amendement qui est arrivé donc le 17 octobre 2023. Si on fait un petit focus justement sur le nouveau calendrier, donc finalement, on voit donc octobre 2023, ce premier amendement qui est venu proposer un nouveau calendrier avec bien entendu une attente de décembre 2023 pour la publication officielle de la loi de finances pour 2024 qui devrait figer des dates définitives. Courant 2024, plusieurs éléments importants à retenir. Tout d'abord, on est dans l'attente de nouveaux décrets et différentes publications, notamment des spécifications externes complémentaires qui vont venir affiner et préciser certains éléments additionnel par rapport à la réforme. Ce sera aussi l'année pendant laquelle, finalement, seront réouvertes les candidatures à la phase pilote qu'on réabordera ultérieurement avec Claire. Ce sera également l'année dans laquelle les PDP seront immatriculés. À la base, on devait avoir les premières immatriculations fin 2023, mais avec ce décalage sur 2026 de la réforme, l'immatriculation des PDP devrait se faire courant 2024. Et enfin, un point important, on le sait tous, c'est qu'au travers de cette réforme, il était également prévu l'ajout de 4 nouvelles mentions obligatoires sur les factures. Pour rappel, le numéro SIREN, l'adresse de livraison lorsqu'elle est différente de l'adresse du client, la nature de l'opération, mais également l'option pour la TVA sur les débits. Ces 4 nouvelles mentions devraient entrer en vigueur toujours le 1er juillet 2024 sur la base d'un texte, d'un décret qui est non pas lié au invoicing et reporting directement, mais qui est propre à ces mentions-là. Donc, on attend bien entendu des précisions pour savoir est-ce que ces 4 nouvelles mentions seront maintenues en juillet 2024 ou est-ce qu'un décret viendra également décaler l'entrée en vigueur de ces 4 nouvelles mentions à 2026, date d'entrée en vigueur des nouvelles obligations. 2025 sera quant à elle l'année pendant laquelle devrait débuter la fameuse phase pilote pour lesquelles les modalités seront discutées à partir de 2024 et pendant laquelle l'année 2024 sera également consacrée à un partage de ces éléments-là avec les différents acteurs. Et enfin, donc, on arrive sur les deux dernières années clés avec le 1er septembre 2026, date à laquelle l'obligation de réception pour tous devrait trouver à s'appliquer, mais également l'obligation d'émission pour les grandes entreprises, les ETI, mais également les assujettis techniques. Et enfin, donc, septembre 2027, date à laquelle la réforme sera applicable pour les PME et les TPE. Bien entendu, donc, ce nouveau calendrier prévoit dorénavant deux vagues de déploiement versus trois initialement, mais maintient finalement une mise en œuvre concomitante des obligations de e-invoicing et e-reporting sous réserve de potentiels amendements complémentaires qui pourraient arriver. À cet effet, alors il faut revenir sur la slide précédente, excusez-moi. Alors, il y a un petit problème sur le jeu des slides. À cet effet, donc, pour vous partager une petite actualité complémentaire de semaine dernière, le Sénat a déposé semaine dernière un amendement visant également à modifier finalement ce calendrier et nouveau calendrier qui pourrait prévoir non pas une date d'entrée en vigueur de ces obligations au 1er septembre 2026, mais une entrée en vigueur à partir de juillet 2025, qui serait une date d'obligation de réception pour tous et une obligation en émission pour les grandes entreprises et les ETI. Bien entendu, s'agissant d'un amendement qui vient du Sénat et non pas de l'Assemblée nationale, ce dernier devra toujours être validé par les députés. Mais même si cet amendement devra être suivi avec attention, de notre côté, on porte la conviction qu'il a peu de chances d'être approuvé par les députés et que par conséquent, le calendrier qui devrait être maintenu serait celui présenté sur la slide que vous avez à l'écran, à savoir le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les ETI et les assujettis uniques, et septembre 2027 pour les PME et les TPE. On souhaitait également vous partager une actualité donc qui n'est pas directement liée aux enjeux électroniques, invoicing et reporting, mais qui pourrait avoir un impact, et il s'agit de la possibilité de pouvoir constituer un groupe TVA. Effectivement, il y a un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui prévoit finalement de pouvoir limiter les impacts en termes de matière de taxes sur les salaires dans le cadre de la constitution d'un groupe TVA. Donc, qu'est-ce que c'est que le groupe TVA ? Le groupe TVA, c'est tout simplement la possibilité qui serait offerte à des assujettis, notamment établis en France, de pouvoir créer ensemble un assujetti unique qui viendrait, donc comme on le voit sur la partie schéma, neutraliser d'un point de vue de TVA les flux au sein de ce groupe TVA. En revanche, les flux qui seraient réalisés entre une entité hors groupe TVA avec une entité dans le groupe TVA rentreraient bien dans le champ d'application du invoicing selon la nature de l'opération. Donc, ce groupe TVA présente un certain nombre d'opportunités pour les groupes, notamment la possibilité de réduire les coûts en matière de trésorerie, de sécuriser le traitement TVA des opérations intra-groupes en neutralisant en réalité ces flux-là d'un point de vue de TVA, mais également en excluant finalement ces opérations-là du champ d'application du e-invoicing. À noter que, bien entendu, dans la mesure où il serait fait le choix de mettre en œuvre un groupe TVA, l'obligation d'émission pour l'assujetti unique, donc l'assujetti unique qui serait finalement constitué de toutes les entités qui feraient partie de ce groupe TVA, serait fixée au 1er septembre 2026, quelle que soit la taille des entités et de l'assujetti unique. Bien entendu, date qui mériterait d'être validée au travers de l'amendement en cours. Donc finalement, cette suppression de l'impact négatif en matière de taxes sur les salaires ouvrirait donc de nouvelles opportunités pour les groupes qui devront, bien entendu, le cas échéant, mener une analyse d'impact dans toutes ces dimensions. Et bien entendu, son approbation finale méritera d'être suivie avec attention afin de pouvoir envisager, bien entendu, le cas échéant, la création d'un groupe TVA au sein de vos entités pour diverses raisons. Bien entendu, donc, les obligations d'électronique, invoicing et reporting ne concernent pas que finalement la France, mais on voit également finalement que cela concerne l'ensemble des États européens. Alors, si on passe sur les slides suivantes sur la dimension européenne, voilà. Merci. Et en effet, donc, si on passe sur la slide suivante, on va voir effectivement le calendrier des obligations européennes, au travers de laquelle on constate finalement une tendance à la généralisation de ces obligations en Europe. avec différentes dates, parce que bien entendu, aujourd'hui, on est sur une mise en œuvre pays par pays, et donc finalement, plusieurs dates sont à retenir dans le cadre de la mise en œuvre de ces obligations. Tout d'abord, on a au titre de l'année 2024, deux États qui vont basculer sur ces obligations-là. La Roumanie, avec une première phase transitoire de janvier 2024 à juillet 2024, pendant laquelle on aura plus une transmission des données de facturation dans le cadre d'un e-reporting, pour basculer à partir de juillet 2024 sur une obligation de e-invoicing. Date à laquelle également doit basculer la Pologne au travers d'une obligation de e-invoicing. 2025 est une année dans laquelle on pourrait avoir donc d'autres États qui viendraient également mettre en œuvre ces obligations-là, avec tout d'abord l'Allemagne qui annonce souhaiter vouloir mettre une obligation de e-invoicing en réception pour tous à partir de janvier 2025. La France serait l'année qui serait consacrée à la fameuse phase pilote, date de début qui restera à confirmer entre janvier et septembre. L'Espagne, également, pour laquelle on a des débats en cours au titre de la mise en œuvre d'une obligation de e-invoicing pour compléter l'obligation de e-reporting. Débat qui devait avoir lieu à l'automne cette année. Malheureusement, et comme vous le savez sûrement, le gouvernement espagnol a du mal à être formé suite aux élections de juin. Et par conséquent, les discussions sont décalées à l'année prochaine. Et le projet de loi prévoit une mise en œuvre dans les 12 mois suivant la validation du texte. Donc par conséquent, cela pourrait pousser à octobre 2025. Et enfin, l'année 2025 pourrait également être la mise en œuvre de ces obligations-là en Croatie. En fin 2026-2027, on aurait la bascule de l'Allemagne et la Belgique potentiellement dans ces obligations, mais également la France qui viendrait compléter ces États-là. Bien entendu, on le voit, c'est toujours sujet à discussion, État par État. On n'est pas à l'abri de changements. L'Allemagne pourrait décaler dans le temps finalement la mise en œuvre de ses obligations. La France pourrait potentiellement les anticiper si l'amendement du Sénat qu'on présentait précédemment venait à être validé. Mais bien entendu, on voit que cette rapide généralisation des obligations EIR et la mise en œuvre, bien entendu, de spécificités doit faire l'objet d'une veille et d'une analyse d'impact afin de sécuriser la mise en conformité et, bien entendu, la recherche d'opportunités au niveau du groupe, qu'on reviendra dessus un peu plus tard. Cette généralisation réalisée actuellement en Europe est basée, comme je l'indiquais, sur la mise en œuvre état par état de différents modèles et de différents choix par les gouvernements. Donc finalement, on peut voir que plusieurs modèles vont cohabiter, et en tout cas déjà cohabitent. C'est le cas donc avec des modèles purement de e-reporting, où là, généralement, la transmission de factures reste libre et on transmet uniquement des données de facture ou des données transactionnelles à l'administration locale. C'est le cas en Hongrie, c'est le cas déjà en Espagne. C'est le cas aussi indirectement avec le Portugal, avec le Safety Invoice mensuel. Mais ce sera également le cas notamment de la France demain avec son volet e-reporting. Et enfin, côté invoicing, on a trois grands modèles, avec bien entendu pour chacune des trois grandes typologies de modèles, des sous-divisions. Mais parmi les trois grands modèles, on va tout d'abord avoir le modèle dit de clearance, qui est un modèle qui aujourd'hui n'est pas présent en tant que tel en Europe, qui est présent au Mexique et au Chili, où les factures doivent être transmises à l'administration fiscale pour validation, reviennent au niveau du fournisseur pour qu'il puisse la transmettre à l'acheteur, ce dernier pouvant valider, devant surtout valider la facture, sur le site de l'administration publique pour vérifier qu'elle a bien été validée en amont par l'administration. On a un modèle centralisé, qui est le modèle notamment mis en œuvre à date par l'Italie, la Serbie, mais à venir également par la Pologne et la Roumanie, qui est un modèle dans lequel la facture doit obligatoirement transiter via une plateforme publique, notamment SDI en Italie, qui la transmettra in fine à l'acheteur. Et enfin, dernier modèle, qui est le modèle que l'on va connaître en France, mais également le modèle qui a vocation à être adopté en Espagne, en Allemagne et en Belgique, qui est le fameux modèle décentralisé, où là, la facture n'est pas obligatoirement transmise via une plateforme publique, le PPF en France, mais peut faire l'objet d'une transmission via des acteurs privés, qui en France seraient des PDP. Et bien entendu, ces modèles-là peuvent bifurquer vers un modèle centralisé si les acteurs font le choix d'avoir recours à la plateforme publique pour l'émission et la réception de leur facture. Donc malgré, bien entendu, de nombreux modèles hier en Europe et dans le monde, il y a bien entendu des synergies qui peuvent être identifiées afin de mettre en œuvre ces obligations, notamment via la potentielle recherche d'acteurs internationaux qui pourraient vous accompagner dans les différents États européens, voire hors Europe et se raccorder le cas échéant à destination des portails publics, notamment en Italie, pour répondre aux enjeux des modèles centralisés. Donc, nous verrons donc un peu plus tard qu'il est important pour les groupes internationaux de pouvoir structurer un projet européen afin de capitaliser sur les synergies envisageables et rationaliser au maximum le modèle cible.
Bonjour à tous. Si nous passons à la slide suivante, donc PwC a réalisé un sondage auprès de grandes entreprises, ETI, PME et TPE, afin de connaître les tendances du marché suite à l'annonce du report de la réforme. Le questionnaire a été envoyé sur le mois d'octobre et novembre 2023. Nous allons vous présenter deux focus. Le premier portera sur les grandes entreprises et ensuite sur les ETI. Quelle est la tendance pour les grandes entreprises ? Nous constatons qu'avant le report, l'ensemble des grandes entreprises ont lancé leurs travaux sur le sujet e-invoicing et e-reporting et ont réalisé à minima le recensement de l'existant. Comme le présente le diagramme à gauche, les trois quarts ont réalisé les travaux d'analyse d'impact de ces nouvelles obligations et presque la moitié des sondés a indiqué avoir défini son modèle cible. L'étape de choix du prestataire a été en grande partie mise en pause suite à cette annonce. Ces retours confirment les résultats du sondage réalisé par l'Institut Ipsos pour le compte de la Direction générale des finances publiques à l'été 2023. Seuls 46% des grandes entreprises déclaraient avoir engagé leurs travaux de mise en conformité à un stade avancé. Un faible avancement global des travaux de mise en conformité, parfois dû à une sous-estimation de l'ampleur de la transformation à mener. Les travaux réalisés portent pour la moitié des groupes interrogés sur des entités pilotes et l'autre moitié a réalisé ses travaux sur l'ensemble des entités concernées par la réforme. Une approche européenne ou mondiale a été adoptée par 50% des répondants, avec la mise en place d'une gouvernance robuste pour le cadrage et le suivi des projets dans chaque pays. Quels ont été les impacts du report de cette réforme ? Suite à l'annonce de ce report, 46% des répondants ont indiqué avoir modifié leur feuille de route. En effet, il s'agit d'une réelle opportunité. Dans un premier temps, pour enrichir le recensement et l'analyse d'impact en élargissant les travaux à l'ensemble des entités concernées par la réforme et non seulement aux entités pilotes. De prendre le temps de mettre en qualité la donnée, via notamment la revue des référentiels tiers et transactionnels. En effet, nous constatons chez nos clients qu'environ 50% des données obligatoires aujourd'hui sont soit non disponibles dans les systèmes ou erronées. D'opérer également les changements sur les processus identifiés comme impactés par les obligations. Également de définir les systèmes d'information qui vont être à la source des données envoyées. D'approfondir la sécurisation fiscale. D'élargir également le périmètre du projet à l'Europe en incluant notamment la Roumanie et la Pologne en repriorisant la feuille de route par rapport à la France. Et enfin, pouvoir se positionner en tant que pilote à partir de 2025. Du fait de ce report, 60% des répondants qui ont modifié leur feuille de route n'étaient initialement pas positionnés comme pilotes et souhaitent le devenir. Nous avons un exemple d'un client qui souhaitait devenir pilote, mais dans un premier temps, il n'était pas prêt pour le jalon initialement prévu. Et deuxièmement, le partenaire avait déjà identifié l'ensemble de ses pilotes. Suite à ce décalage, le partenaire a élargi son nombre d'entités pilotes et a retenu notre client. Le fait de participer à cette phase rassure notre client. Il va pouvoir faire pendant quelques mois du test and learn et essuyer les plâtres sur quelques entités afin d'être prêt pour 2026. Ce report est une réelle opportunité pour sécuriser et apporter de la valeur au-delà de la contrainte réglementaire. Nous reviendrons ultérieurement sur les opportunités et challenges. 31% des répondants ont mis en pause leur projet e-invoicing et e-reporting pour une reprise ultérieure, pour se concentrer sur leurs projets stratégiques au sein de leur groupe, comme les projets d'envergure ERP. Ces projets sont très chronophages et mobilisent un certain nombre de ressources. Par exemple, nous avons un client qui a souhaité mettre en pause son projet quelques semaines afin de réaligner l'ensemble des projets du groupe, faire aligner les feuilles de route, prendre en compte également les besoins des pays européens afin de mettre en place des plans d'action communs et partagés. Ils souhaitent profiter de cette mise en pause également pour refondre leur processus. Cette mise en pause ne dure pas, afin de ne pas risquer de, dans un premier temps, déprioriser, de perdre le sponsorship du projet et de ne pas démobiliser les équipes, parce que les entreprises se rendent compte de l'ampleur du projet. Les trois quarts des répondants de cette catégorie ayant mis en pause leur projet ne souhaitent pas participer à la phase pilote de la réforme. Parmi les répondants, 23% ne souhaitent pas modifier leur feuille de route et maintiennent le plan de bascule à la date initiale. Par exemple, un client est à la phase d'analyse d'impact des obligations. Il souhaite maintenir, mobiliser ses équipes en gardant le planning initial. Pour la totalité de ces répondants, ils ne souhaitent pas participer à la phase pilote. Face aux premiers travaux menés et au report de la réforme, quels sont vos premiers constats et retours? Ce changement de calendrier confirme que la réforme est complexe et qu'il est important pour les entreprises de s'y préparer, de la comprendre et de se donner le temps d'être prêts. Les répondants ont évalué un niveau de difficulté moyen pour ce projet à 7,5 sur 10. C'est une démarche longue et complexe qui offre de belles opportunités, telles que la digitalisation du groupe avec la dématérialisation des factures, la mise en qualité des données, des référentiels en sécurisant les mentions obligatoires, l'harmonisation et la simplification des processus O2C et P2C de TVA et l'amélioration du processus de collecte, la convergence des projets comme la migration système ou l'alignement avec les projets européens, également la fiabilisation des modèles IT et de l'architecture technique pour l'ensemble des entités du groupe. Prenez-le comme un temps additionnel, une bouffée d'air pour acculturer les collaborateurs à ce nouveau processus. Enfin, la possibilité également de se positionner en tant que pilote. De belles opportunités qui n'enlèvent pas les challenges à relever pour mener à bien ce projet. À travers le sondage, nous avons relevé les difficultés suivantes. La complexité de l'architecture des outils IT, l'hétérogénéité de la qualité et de la disponibilité des données dans les outils, des cas métiers également qui n'étaient pas adressés dans les spécifications, qui laissent un flou dans la déclinaison opérationnelle, de nombreux projets prioritaires à l'échelle de l'entreprise menés en parallèle qui réduisent la disponibilité des ressources, des échéances réglementaires qui évoluent, impactant la durée du projet et la mobilisation des ressources, et enfin, des solutions de marché en cours d'élaboration pour lesquelles des éléments de comparaison sont trop peu disponibles. De belles opportunités et défis à relever dans les prochains mois pour les grandes entreprises. Et qu'en est-il pour les ETI ?
Merci Claire. Si maintenant nous faisons un focus sur les ETI, les résultats de notre étude montrent qu'au moment de l'annonce du report, l'état d'avancement du projet de mise en conformité était assez hétérogène et globalement assez peu avancé par rapport aux grandes entreprises. En effet, 20% des ETI interrogés n'avaient pas encore lancé leur projet de mise en conformité. 60% étaient globalement dans la phase de préparation, de diagnostic et de réflexion sur le modèle cible. Et seuls 20% avaient passé cette étape pour commencer à choisir son partenaire, soit une PDP, une plateforme de dématérialisation partenaire, soit un opérateur de dématérialisation. Alors, ce qui ressort de cette étude, c'est qu'avant ce report, 23% des ETI interrogés souhaitaient cependant quand même démarrer l'émission de la facturation électronique dans le format de la réforme de manière anticipée, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2024. Alors, sur le périmètre des ETI que nous avons interrogés, la plupart ne sont pas des entreprises seules, mais comprennent entre 2 et 50 entités et sont présentes au-delà des frontières françaises, plutôt en Europe. Contrairement aux grandes entreprises, la plupart des ETI interrogées ont choisi une approche globale et systématique pour la mise en œuvre de la réforme, c'est-à-dire une approche qui couvre 100% des entités françaises et non une approche avec des entités pilotes. En revanche, assez peu d'entre elles ont choisi de traiter l'ensemble des réformes au sein d'un même projet européen, mais ont mis des projets différents pays par pays. Alors, le report de la réforme a eu un impact fort sur la gestion des projets des ETI. Et il faudrait revenir sur la slide précédente. Non, la slide suivante alors. Seulement 17% des ETI interrogés ont indiqué que le report n'allait pas avoir de conséquences sur leur projet, mais qu'elles poursuivent le projet de mise en conformité selon le planning qu'elles s'étaient fixé avant l'annonce du report. La moitié d'entre elles ont indiqué qu'elles souhaitaient faire partie de la nouvelle phase pilote. A contrario, plus de 70% des entreprises interrogées ont répondu que le report allait fortement impacter leur projet et qu'elles avaient d'ores et déjà modifié leur feuille de route. Plus d'un tiers d'entre elles indiquent qu'elles souhaitent prendre le temps de revoir le modèle cible qui avait été défini avant le report pour intégrer d'autres sujets, notamment une automatisation des process de bout en bout, une rationalisation de leur schéma de facturation ou une revue, une rationalisation de leur architecture applicative. Un autre tiers de ces 70% a choisi de repousser le choix du partenaire. Parce que quand bien même elles avaient déjà lancé leur appel d'offres, qu'elles avaient bien avancé dans ce process d'appels d'offres, elles ont décidé de temporiser et elles ont confirmé vouloir attendre d'avoir plus de visibilité sur l'accréditation des PDP, sur les services complémentaires que les PDP allaient pouvoir proposer et surtout sur la tarification. Elles souhaitent également voir pendant ce temps ce que leurs éditeurs actuels de systèmes d'information vont pouvoir proposer puisqu'ils vont avoir un temps complémentaire pour pouvoir développer une solution. Et seuls 3% des ETI ont indiqué avoir stoppé complètement le projet pour le reprendre ultérieurement. Et 10% n'ont pas souhaité se positionner. Alors, en dernier lieu, si on regarde les opportunités et les difficultés qu'ont rencontrées les ETI dans le déroulé de leur projet, les ETI de notre panel nous ont monté un certain nombre de difficultés. Si on peut juste se remettre sur la slide correcte. La première difficulté qui a été remontée concerne le manque de visibilité de la part de l'administration fiscale avec un cahier des charges complexe et qui évolue régulièrement et une annonce du report qui s'est fait très tardivement. À ceci se cumule un retard des accréditations des PDP qui laisse un flou sur l'ensemble des critères de sélection et ne permettent pas d'avoir un benchmark. Elles ont donc l'impression, nos ETI, d'avancer en aveugle. La seconde difficulté concerne la qualité des données dans les différents référentiels, ce qui risque d'entraîner un rejet en masse des différents flux, que ce soit invoicing, e-reporting. À ceci s'ajoute le plus souvent la multiplicité des systèmes de facturation interne qui résulte bien souvent d'un historique ou de croissance externe et qui met tout de suite une complexité importante sur le projet de mise en conformité. La troisième type de difficulté concerne la complexité et la diversité des flux de facturation avec de nombreux cas de gestion qui ont été identifiés et le traitement de ces cas de gestion est encore aujourd'hui la plupart du temps manuel, donc il va falloir pouvoir l'automatiser pour pouvoir les faire rentrer dans le dispositif. Les dernières difficultés concernent le projet lui-même. Les ETI interrogées ont fait ressortir un manque de ressources en interne, que ce soit côté métier ou côté IT, ce qui ralentit le projet et ce qui pose des problèmes de coordination. Elles ont également souligné que les roadmaps informatiques, les roadmaps IT, sont déjà très chargés pour les 3 années à venir. À ce manque de disponibilité s'ajoute la problématique du coût du projet, notamment, et du coût, une fois implémenté du dispositif, de traitement de chaque opération en run, ce qui va venir obérer la marge. Alors, malgré tout, les ETI ont vu dans ce report des opportunités importantes. La première, qui n'a pas été citée en tant que telle, et d'avoir le temps de se préparer, ce qu'on peut comprendre, puisqu'on a vu que leur état d'avancement était moins important que celui des grandes entreprises. Au-delà de cette préparation, les ETI voient une opportunité d'optimiser le process de facturation, de rationaliser les flux et les formats de facturation afin de gagner en efficacité. Elles y voient également l'opportunité d'arriver à mettre en qualité leurs données, on va y revenir ultérieurement, et ce, avant l'entrée de la réforme, de pouvoir les enrichir, de pouvoir les corriger pour assurer leur conformité et mettre en place une gouvernance qui permettra de sécuriser la qualité de ces données régulièrement afin d'éviter une dégradation de la qualité dans le temps et d'éviter des risques de rejet, de pénalisation des mentions manquantes et d'atteinte à l'image. Alors, dans leurs objectifs, elles intègrent également la volonté d'automatiser le process de déclaration de TVA et de revoir le contrôle interne autour de tout le process d'identification de la TVA et de déclaration, conscientes que, dans un premier temps, l'envoi de flux automatisé avec une déclaration qui restera manuelle présente des risques importants d'incohérence, d'écart, d'erreur. Alors, au-delà de ces éléments, le report va laisser le temps d'intégrer le projet dans des projets plus globaux de transformation des systèmes d'information et ne plus traiter ce sujet comme, m'excuserai du terme, comme une verrue. Ça permettra également de rationaliser la cartographie applicative et de recentrer les différents systèmes d'information. Alors, essayons maintenant de prendre un peu de recul sur les opportunités offertes par ce report et d'oublier cette dichotomie entre ETI et grandes entreprises. La première, et bien évidemment, c'est que ce temps supplémentaire va permettre de mieux se préparer et d'aller beaucoup plus en profondeur, de manière plus structurée sur un certain nombre de points et donc de gérer ce projet de manière beaucoup plus efficace et optimale. Si on rentre un peu plus dans le détail, sur la partie opérations et process, ce temps complémentaire va permettre d'effectuer une revue intégrale des processus de facturation, que ce soit les flux de facturation entrants ou les flux de facturation sortants, de les adapter aux nouvelles obligations tout en les rationalisant et en les sécurisant. Alors, qu'est-ce que ça signifie en termes clairs? Ça signifie que ce report va permettre de réfléchir à une automatisation de bout en bout de l'ensemble des process, P2P, O2C, mais aussi paiement et règlement, avec la mise en place de points de contrôle clés. Ça va permettre également de revoir et d'adapter le contrôle interne global sur ces trois processus et de former les équipes sur ces nouveaux process et contrôles afin de les mettre sous contrôle dès le lancement ou l'entrée dans la réforme. Le report va également permettre de sécuriser la gestion du traitement des rejets et refus de factures selon le niveau de refus, à savoir s'il s'agit d'un rejet technique ou d'un refus de l'acheteur, et de définir des process différenciés pour chacun des cas, savoir quand est-ce qu'il faut émettre un avoir au client ou simplement un avoir interne, comment on recycle l'opération dans les systèmes d'information et comment on la renvoie dans le dispositif. L'idée est de mettre également chacun de ces cas sous contrôle. Ça va également permettre de prendre un temps pour développer correctement le cycle de vie et les différents statuts, pas seulement les statuts obligatoires imposés par la réforme, mais également de pouvoir développer les statuts recommandés, voire certains statuts libres qui pourraient être nécessaires à l'activité. Et dernier point sur cette partie process et opération, la phase d'adaptation de la relation avec les clients et avec les fournisseurs va pouvoir être abordée de manière plus sereine et donc de manière beaucoup plus coordonnée pour éviter les couacs de démarrage. Alors, si on regarde plutôt les systèmes d'information, ce qui est clairement ressorti de notre étude, c'est que ce délai complémentaire va permettre de faire converger le projet de facturation électronique avec d'autres projets IT, notamment les projets de migration de systèmes d'information. En effet, aujourd'hui, de nombreuses entreprises, de nombreux groupes sont en train de préparer des montées de versions sur leurs ERP et ce temps additionnel va permettre d'intégrer le projet de facturation électronique à part entière dans ces montées de versions et de manière beaucoup plus rationnelle. De la même façon, beaucoup de difficultés ont été remontées concernant la multiplicité des systèmes de facturation. Ce délai supplémentaire va pouvoir permettre de rationner les outils de facturation, qu'on émette les factures via l'ERP, via des outils d'émission de facturation interne ou des outils de gestion des achats, et de trouver une solution pour concentrer l'ensemble des flux, comme par exemple avec ce qu'on va appeler un hub de facturation interne ou un outil concentrateur intermédiaire. De la même manière, ce délai complémentaire va permettre de fiabiliser le modèle cible IT et l'architecture technique qui va devoir être mise en place et surtout de la rationaliser par rapport à l'existant. Sur la partie TVA, ces deux années de report vont permettre de revoir et sécuriser les mentions obligatoires présentes sur les factures afin d'éviter les pénalités qui, elles, n'ont pas été modifiées par la réforme, je vous le rappelle. En effet, les contrôles de l'administration fiscale demain vont pouvoir être automatisés avec l'ensemble de ces flux et devenir certainement beaucoup plus systématiques et faire remonter toutes les anomalies concernant les mentions obligatoires. De la même manière, il va falloir utiliser ce temps complémentaire pour définir et déployer un processus déclaratif en matière de TVA et un contrôle interne efficace sur les flux de TVA afin de ne pas générer d'incohérences que ce soit entre les flux de e-reporting, les flux de invoicing et les taux de TVA utilisés, ou entre les ces fameux flux, donc e-reporting et invoicing, et la déclaration de TVA qui va être préparée. Et dernier point sur la data, mais on fera un focus spécifique avec Marvin un peu plus tard dans ce webcast. Le report de 2 ans va pouvoir permettre de vérifier la disponibilité et la qualité des données obligatoires dans chacun des référentiels et d'effectuer une mise en conformité globale via un enrichissement ou des corrections. Il va permettre également de rationaliser les master data qui sont la plupart du temps propres à chaque outil de facturation. Donc, on se retrouve avec un certain nombre de master data clients ou fournisseurs et peut-être de mettre en place un master data central qui permettra de gérer l'ensemble des informations. Ça va permettre également de mettre en place des paramétrages, des règles de gestion, des contrôles automatiques au sein de ces master data pour sécuriser toutes ces données dans la durée. Et dernier point, mais non des moindres, ça va permettre de revoir l'ensemble du paramétrage des codes de TVA et de les sécuriser. Donc, comme je vous le disais, on va faire un focus dédié un tout petit peu plus tard avec Marvin sur ce point-là. Au-delà de tous ces éléments, pour s'assurer d'une préparation optimale, il y a également la possibilité de participer à la phase pilote et c'est ce que Claire va vous expliquer.
Ce report est en effet une vraie aubaine pour participer à la phase pilote. Pour rappel, 2 chartes avaient été initialement partagées. La première entre les entreprises et la DGFiP AIFE et la deuxième entre les PDP et la DGFiP AIFE. Ces 2 chartes concernaient la phase pilote initiale de 2024. Nous attendons des confirmations si les conditions de la nouvelle phase pilote seront identiques. Nous vous présentons un focus sur la charte avec les entreprises. Nous distinguons 2 rôles au sein de l'équipe. Dans un premier temps, le chef d'équipe qui sera le représentant de l'entreprise dans les instances. Il sera en charge de déposer le dossier, d'être le coordinateur vis-à-vis de l'interne et de l'externe, c'est-à-dire de mobiliser et d'animer l'équipe et d'assurer la réalisation des cas fonctionnels, d'également de représenter son équipe dans les comités de suivi, de pouvoir contribuer au retour d'expérience, également de former et d'accompagner les membres de son équipe à l'utilisation du PPF, et enfin, d'informer régulièrement l'équipe et la DGFiP AIFE. L'équipe, quant à elle, sera en charge d'expérimenter les cas fonctionnels et de contribuer au retour d'expérience relatif de la phase pilote. Vous souhaitez postuler en tant que pilote, mais finalement, que devez-vous faire? Donc, dans un premier temps, il convient de déposer votre acte de candidature avec des informations sur les sociétés que vous souhaitez inclure dans la phase pilote, en incluant en annexe une schématisation des flux entre les membres de l'équipe, de rédiger par la suite une lettre de motivation au format libre, signée par le représentant légal de l'entreprise, et enfin de faire signer la charte par tous les membres de l'équipe. En termes de calendrier, en amont de la phase pilote, il y aura la phase dite de qualification, afin de pouvoir effectuer les raccordements à la PPF. La phase pilote s'effectue dans un environnement de production et de manière volontaire. Cette phase pilote devrait avoir lieu courant 2025, un démarrage pouvant s'étaler de janvier à septembre 2025. Les dates doivent être confirmées lors de la validation du projet de loi de finances 2024, en décembre 2023. Du fait de ce report, comment se préparer à un projet européen et quelles sont les principales étapes?
Comme nous l'avons rappelé un peu plus tôt, la mise en œuvre des obligations EIR s'inscrit dans le cadre d'une génération européenne de ces obligations-là et passer finalement sur un projet à l'échelle européenne, c'est la possibilité de capitaliser sur 3 opportunités principales pour les groupes internationaux. Le premier, harmoniser les solutions et processus au niveau européen, qui aura 2 conséquences majeures. La première, c'est de finalement réduire les coûts de build et de run au niveau donc de la solution qui serait retenue. Et bien entendu également, limiter les impacts change pour les équipes internes en rationalisant les solutions et les processus. Finalement, les équipes ont besoin de se familiariser avec moins de processus différents. Sur les différentes étapes, finalement, la majorité d'entre vous ont déjà commencé à réaliser des travaux en France afin de se mettre en conformité avec les obligations initialement pour la date de juillet 2024. Et je passe la date de janvier 2023, mais essentiellement pour 2024. Du coup, ce décalage nécessite déjà pour les groupes français de revoir leur feuille de route et potentiellement d'initier en parallèle une identification des obligations applicable dans les différents États. Quelles sont les obligations? Est-ce que c'est du investing? Est-ce que c'est du reporting? Est-ce que j'ai du cycle de vie? Est-ce que j'ai de la transmission de données de paiement? Est-ce que c'est un modèle décentralisé, centralisé? Quelles sont les typologies de données? C'est les premières questions à se poser pour bien comprendre mais quelles sont les différentes obligations dans les différents États. Une fois que cela a été identifié, finalement, l'idée est d'analyser et comprendre l'impact État par État de ces nouvelles obligations. Quand je dis État par État, c'est bien entendu regarder au niveau de vos systèmes, de vos flux, de vos transactions, par rapport à la réglementation à venir dans chacun des États, quel va être mon impact en termes d'outils, de données, de process et bien entendu d'organisation. Tout cela pour finalement regrouper à la fois les impacts des autres États européens et les impacts qui avaient été identifiés en France pour définir un modèle cible et une feuille d'implémentation globale qui aura vocation à tenir compte de l'ensemble des projets que vous pourriez avoir, notamment de potentiels projets de migration ou de transformation groupe, que ce soit européen ou worldwide, que vous pourriez avoir. Je pense notamment, par exemple, à des migrations de ECC6 vers du S4. Un petit cas particulier, c'est comme on l'a vu, la Pologne et la Roumanie vont avancer assez vite avec une mise en œuvre à partir de 2024 sur des modèles qui n'ont pas vocation à être ceux qui seront retenus en France, en Belgique, en Espagne et en Allemagne. Et donc potentiellement la définition d'une feuille de route temporaire pour ces pays-là avec une convergence à terme des modèles afin finalement de pouvoir implémenter selon un modèle et une feuille de route cadencée le modèle cible prenant en compte les spécificités, bien entendu, locales. Outre cet enjeu donc lié potentiellement au passage dans un projet européen, et comme vous le savez, la donnée est au cœur des enjeux des nouvelles obligations, comme notamment le rappelait Virginie précédemment. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre des obligations EIR en France, il conviendra vraiment donc d'être en mesure de pouvoir transmettre à l'administration fiscale, et c'est le cas finalement pour l'ensemble des États, des données sous format structuré, avec en France 5 grandes catégories d'obligations et de données structurées à transmettre, les données du e-invoicing, les données du cycle de vie, les données du e-reporting à la vente, avec des particularités en fonction de est-ce qu'on est sur un e-reporting B2B, est-ce qu'on est sur un e-reporting B2C. On aura également les données du e-reporting à l'achat, et bien entendu, dans certains cas, les données liées au paiement et aux encaissements réalisés. Cette brique-là a vocation également à être élargie au travers de l'ajustement de ce qui est prévu pour couvrir les acomptes liés à des prestations de services et voire potentiellement demain à des livraisons de biens. Donc finalement, deux grands enjeux. Tout d'abord, sécuriser la conformité sémantique des données et la conformité sémantique, on va y revenir juste après, mais également sécuriser la qualité des données, notamment le respect des règles fiscales et TVA, afin d'anticiper les contrôles fiscaux de demain et bien entendu également fluidifier et automatiser les processus d'élaboration des déclarations de TVA. Donc effectivement, donc sur la partie sécuriser la conformité sémantique des données, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à aujourd'hui, le format sémantique retenu en France est tout d'abord basé sur une norme européenne, EN16931, qui vient poser un certain nombre de bonnes pratiques et de contraintes techniques. On va y revenir juste après dessus. On a également des syntaxes, XML-C2I, XML-BL et d'autres, qui ont également leurs propres règles de normalisation et de balises, qui, on a pu le voir chez un certain nombre de groupes, certaines balises retenues dans le cadre du invoicing en France n'étaient pas forcément celles utilisées lorsqu'on émettait déjà des factures en XML-UBL. Donc un enjeu également de bien s'aligner sur les balises au travers des syntaxes utilisées. Et bien entendu, comme je le disais, on est aujourd'hui sur une mise en œuvre étatique. Donc outre un socle, on va dire, transverse international au travers des syntaxes et de la norme européenne, également des règles de gestion franco-françaises qui devront être prises en compte. Et tout cela, à la fois sur les données issues des référentiels tiers et des référentiels articles, mais également des données transactionnelles, afin de bien sécuriser tous ces éléments-là, en commençant par bien comprendre la gouvernance de la donnée, afin d'en sécuriser la disponibilité des données obligatoires et conditionnelles, de bien identifier les données métiers que vous pourriez être amené à communiquer à vos clients sur les factures, pour également sécuriser leur conformité sémantique, qui est le dernier point de la revue, afin de sécuriser notamment le type logique. Est-ce que lorsque j'ai une donnée de type date, est-ce qu'elle est bien sous format date? J'ai des données de type code, par exemple le type code de facture de mer, pour dire que c'est un avoir, il faudra le codifier. Ce ne sera pas indiqué avoir dans le fichier structuré, mais ça sera un chiffre sur trois numéros. On a également des respects de longueur. Un numéro de la facture, par exemple, c'est 20 caractères maximum de main. On a également un respect du nombre de décimales à respecter en fonction est-ce qu'on est en ligne de facture ou sur des montants totaux. Et comme on le présentait juste avant, un respect des règles de gestion et des règles françaises. Donc, un véritable enjeu de bien revoir la disponibilité de vos données, la conformité sémantique pour définir votre cahier des charges, enrichir les référentiels le cas échéant, mener l'ensemble des actions correctrices et bien entendu in fine, il conviendra d'adapter le processus afin de pérenniser la conformité et la qualité des données. En ce qui concerne la sécurisation du respect des règles fiscales TVA, il ne faut pas oublier qu'à la base on est sur une réforme TVA et que l'enjeu de l'administration fiscale est bien entendu de venir contrôler le bon respect de la réglementation fiscale et notamment TVA. Donc à cet effet-là, il est important de sécuriser la qualité de vos données, notamment la qualité des mentions. Je pense notamment au libellé du produit ou du service qui, selon la réglementation, doit désigner précisément la nature du bien ou du service rendu, ce qui exclut l'emploi de termes génériques, par exemple. Donc à cet effet-là, il y a un enjeu de sécuriser la conformité des mentions. Comme je disais avant, également un enjeu de sécuriser la qualité de vos référentiels, notamment clients, afin de sécuriser le numéro sirène, le numéro SIRET ou le numéro télémétrique communautaire qui serait renseigné pour justement sécuriser la transmission de la facture, mais également sécuriser de potentiels risques qui pourraient apparaître. Sécuriser également le paramétrage TVA de vos systèmes, pour sécuriser les taux de TVA, les exonérations appliquées et valider finalement au fil de l'eau la conformité fiscale des données qui seront transmises à l'administration fiscale. Et enfin, bien entendu, en bout de chaîne, on a l'obligation déclarative TVA qui conviendra également de sécuriser et automatiser en prenant en compte l'ensemble des données et en s'appuyant sur l'ensemble des nouvelles technologies pour répondre à ces nouveaux enjeux. Des outils de data viz, des outils de data analytics pour faire des contrôles, potentiellement des langages de programmation pour s'accorder à certaines bases externes pour contrôler, et bien entendu en ayant recours à l'IA générative afin également d'anticiper son utilisation par l'administration fiscale. Un rapide petit focus autour de réflexion, autour du suivi de la sécurisation des flux transactionnels. Et en effet, eu égard à ce contexte finalement de contrôle en continu des transactions, les groupes doivent vraiment penser leur compliance fiscale et TVA au travers du recours de nouvelles technologies afin de sécuriser finalement les flux et automatiser au maximum les processus déclaratifs pour fluidifier les échanges et l'élaboration de ces déclarations-là. Et tout cela passe au travers finalement de la récupération de données depuis des systèmes, des données transactionnelles, les rapports TVA, la balance générale, mais également toute autre donnée, ça peut être des données métiers, des données issues de bases tiers, VUS, la base INSEE, pour finalement définir et implémenter dans des outils de data analytics, de langage de programmation, mais également en faisant appel à l'IA générative, des règles de contrôle et de formatage des données. L'IA générative, par exemple, elle peut vous aider à traiter des données en masse, en notamment, par exemple, côté réception, en identifiant de potentiels libellés suspicieux à l'achat, mais également potentiellement des achats pour lesquels vous déduisez la TVA, mais sur lesquels on a des règles de déduction de la TVA qui pourraient être limitées. Et enfin, tout cela pour avoir un suivi de vos transactions, une identification de potentiels risques fiscaux TVA, vous aider à établir vos déclarations de TVA et bien entendu suivre ces obligations-là fiscales et TVA qui, au niveau d'un groupe, peuvent être assez importantes. Et donc là, généralement, des outils de data viz peuvent vous aider finalement à mettre en œuvre ce suivi-là.
Alors, merci Claire, merci Marvin. On espère que le partage des résultats de notre étude ainsi que les analyses des différentes opportunités qui sont offertes grâce au report de la réforme a permis de vous donner d'autres perspectives dans la gestion de vos projets de mise en conformité et l'adaptation de ces mêmes projets. Alors, il nous reste un peu de temps, donc maintenant, place aux questions. On a eu pas mal de questions dans le chat. Peut-être une première question pour toi, Claire. Est-ce que tu peux rappeler quand Et est-ce qu'on sait déjà d'ailleurs si on aura une date de validation des candidats PDP et une date de mise à disposition de l'annuaire centralisé?
Alors, à date, il y a toujours des discussions en cours sur la date de validation des candidats PDP, donc de l'immatriculation, et sur la date de mise à disposition de l'annuaire. Un décret devrait être publié début 2024 pour venir préciser les nouvelles modalités d'immatriculation des PDP. Pour l'annuaire, des demandes ont été faites pour anticiper sa mise à disposition. Ces demandes semblent être rejetées par l'administration fiscale qui le mettrait à disposition en principe au début de la phase pilote, soit 2025 si la date est confirmée.
Okay. Merci beaucoup, Claire. Une deuxième question sur les non-assujettis à la TVA. Donc, je pense que c'est plutôt pour toi, Marvin. Donc, dans les clients non-assujettis à la TVA, sachant qu'ils ne feront pas l'objet de invoicing et que la PPF n'enverra donc pas la facture au client, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que la facture va pouvoir arriver chez le client non-assujetti?
Alors, effectivement, les clients non assujettis ne sont pas soumis à l'obligation d'invoicing. Par conséquent, le fournisseur est libre de continuer à émettre son document, notamment sous version papier ou PDF, par les moyens qu'il souhaite. On a juste quelques cas, notamment des ventes à distance intracommunautaire, pour lesquelles on peut avoir des obligations de facturation. En revanche, pour une majorité d'opérations B2C, on n'a pas d'obligation de facturation en tant que telle, d'un point de vue fiscal, TVA. Donc, comment est-ce que la facture va parvenir au client? Et finalement, cela dépend de comment est-ce que vous souhaitez lui faire parvenir cette facture-là. Vous pouvez très bien continuer à lui donner une facture papier ou alors à lui transmettre une facture par adresse email pour qu'il puisse la traiter. Vous aurez, vous, en tant que fournisseur assujetti, l'obligation en revanche de transmettre sous format structuré via le reporting B2C les données à l'administration fiscale en prenant bien entendu en compte la nature de l'opération, si celle-ci rentre ou non dans le champ d'application du reporting B2C.
Ok, c'est clair. Merci beaucoup, Marvin. Alors, question suivante. Elle concerne l'archivage. Donc ça, je vais pouvoir peut-être vous répondre. Donc, qui doit prendre en charge l'archivage légal des factures? Est-ce que c'est la PDP? Est-ce que c'est la PPF? Ou est-ce que ce sont les entreprises comme actuellement? Et est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un coffre-fort électronique? Alors, sur les questions d'archivage, rien n'a changé. C'est l'entreprise qui reste en charge de l'archivage légal des factures. Donc, la PPF comme la PDP peuvent proposer un service pour garder les factures un certain temps, mais in fine, ça reste l'entreprise qui est redevable de cette obligation. Et sur la partie coffre-fort électronique, il n'y a pas d'obligation fiscale d'avoir un coffre-fort électronique, mais c'est fortement recommandé puisque ça permet de fiabiliser l'archivage.
De rebondir, j'ai vu qu'il y avait deux questions, je veux bien reprendre. Une première, enfin plusieurs questions sur les mentions obligatoires à partir de juillet 2024. Alors, les quatre mentions qui sont visées aujourd'hui, c'est le numéro sirène du client, c'est l'option pour la TVA sur les débits si l'entreprise qui émet la facture a opté pour la TVA sur les débits, c'est l'adresse de livraison des biens lorsque celle-ci est différente de l'adresse du client, et la dernière est la nature de l'opération. Est-ce qu'il s'agit d'une livraison de biens, d'une prestation de service ou d'une opération double? Donc, ces quatre mentions doivent toujours à date entrer en vigueur au 1er juillet 2024. On attend de voir et on espère que l'administration fiscale et le gouvernement vont décaler la date d'entrée en vigueur de ces quatre nouvelles mentions obligatoires pour l'aligner avec la date d'entrée en vigueur finalement des obligations de l'invoicing et reporting. Pour le moment, en revanche, on n'a aucun texte en ce sens-là, qui vient décaler dans le temps l'entrée en vigueur. Et d'ailleurs, si on consulte toujours sur Légifrance, l'article 242 de l'ONIS A de l'annexe 2 au CGI, on voit toujours que la version en vigueur au 1er juillet 2024 prend bien en compte ces quatre nouvelles mentions obligatoires. Deuxième point que j'ai vu également, je me permets de revenir dessus, c'est sur la partie Roumanie. La Roumanie, en fait, a décidé de faire un projet en deux temps avec e-reporting pendant 6 mois, qui va concerner à la fois les entreprises assujetties établies en Roumanie, mais également les assujetties immatriculées non établies en Roumanie, qui, elles, auront vocation à maintenir ce e-reporting-là post-juillet 2024, alors que les établis en Roumanie devront basculer sur du e-invoicing dans le format XML retenu par la Roumanie.
Parfait. Alors, je continue à descendre les questions. question. On a une question sur l'utilisation déjà de portails type CGDIM ou Ariba. Et la question est de savoir si ces portails sont destinés à disparaître ou s'ils vont subsister dans la future obligation. Alors, dans ceux qui sont cités, certains sont candidats PDP, donc ils vont pouvoir subsister à la future obligation. Après, c'est dans le dispositif, dans le modèle cible que vous allez définir. En fait, ces portails peuvent continuer à subsister et être un intermédiaire avec la PDP si vous choisissez de partir sur la PDP, ou pour certains, faire office d'opérateur de dématérialisation. Il n'y a pas de règles spécifiques. Ça dépend vraiment de leur positionnement, de la manière dont vous allez construire votre modèle cible pour pouvoir vous mettre en conformité.
Il y a une question également sur la date d'entrée en vigueur de la réforme en France. Je vais rapidement y revenir pour clarifier. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc finalement, on a un amendement par les députés qui a été validé le 17 octobre 2023, qui prévoit une date de mise en œuvre en deux temps. 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les ETI et les assujettis uniques, plus obligation de réception pour tous. Et 1er septembre 2027 pour les PME et TPE, avec la possibilité pour le gouvernement, par décret, de décaler ça de 3 mois dans le temps. On va dire qu'aujourd'hui, c'est la version la plus fiable à date. On a cependant, depuis fin de semaine dernière, un amendement par le Sénat, et je dis bien par le Sénat, ce n'est pas les députés, mais vraiment les sénateurs qui l'ont posé, qui souhaiterait que l'obligation de réception soit au 1er juillet 2025 pour tous, tout comme l'obligation d'émission pour les grandes entreprises et les assujettis uniques. Cet amendement-là doit encore faire l'objet de discussions au niveau donc, de l'Assemblée nationale, et on pense qu'il a peu de chances d'être validé. On ne peut pas totalement l'exclure, bien entendu, d'où le fait qu'il faut vraiment suivre les débats avec attention et attendre la publication de la loi de finances fin décembre 2023 pour vraiment valider le calendrier final qui, potentiellement, si on avait une surprise, pourrait avoir une date au 1er juillet 2025.
Peut-être en complément, Marvin, on a une question complémentaire qui demande la date exacte et le numéro de l'amendement déposé par le Sénat. Est-ce que tu as ça ?
Alors, je ne l'ai pas à portée de main. J'ai l'amendement, je peux le retrouver. Je pourrais vous le communiquer. On pourrait vous le communiquer en parallèle du support. Donc, en retour avec justement de cette podcast, on pourra vous communiquer l'amendement concerné. Ok.
Alors, encore une question pour toi, je pense, la question sur les master data. La question est de savoir s'il y a un moyen, s'il y a une base qui permet d'obtenir l'information pour les fournisseurs, de savoir s'ils ont opté pour la TVA sur les débits ou non.
Alors, aujourd'hui, non, il n'y a pas de base en tant que telle qui permet de pouvoir identifier si ou non un fournisseur a opté pour la TVA sur les débits. Il n'y aurait pas de base non plus demain. Aujourd'hui, la mention est simplement recommandée mais non obligatoire. En revanche, demain, dans le cas de la mise en œuvre, alors, 1er juillet 2024, voire potentiellement à partir de septembre 2026, en fonction de quand est-ce que les nouvelles mentions vont entrer en vigueur, votre fournisseur aura l'obligation d'indiquer sur sa facture si oui ou non il a opté pour la TVA sur les débits. Donc, on aura un champ spécifique de la donnée dans lequel on aura un code qui sera mentionné pour indiquer si oui ou non il a opté pour la TVA sur les débits. Donc, l'enjeu sera finalement, lorsque vous allez recevoir une facture en invoicing de votre fournisseur, de venir récupérer cette information-là pour la croiser par rapport à vos règles de détermination de TVA et déterminer est-ce que c'est une TVA déductible sur les débits ou pas. En prenant en compte que, bien entendu, même si votre fournisseur a opté pour la TVA sur les débits, qu'il vous ait mis une facture d'acompte qui n'est pas encore payé, qui sera payé le mois suivant, lorsque je comptabilise ma facture d'acompte, l'éligibilité de la TVA n'est pas encore intervenue, elle interviendra lorsque vous la paierez. Donc, il y aura un enjeu de prendre en compte et vraiment de revoir les règles de paramétrage TVA de vos systèmes pour prendre en compte l'ensemble des informations, que ce soit la nature de l'opération, que ce soit le type de facture, mais également est-ce que oui ou non il a opté pour la TVA sur les débits, de quand est-ce qu'elle est payée, pour voir quand est-ce que vous pourrez déduire la TVA. Et c'est ce que l'administration fiscale fera sur les données qui vont lui être transmises et vous, les données que vous allez gérer. Et je rajouterai également, vu que je suis parti un petit peu sur le paramétrage TVA plus global, la gestion du cycle de vie. Bien entendu, en fonction d'une facture est rejetée, refusée ou autre, il y en aura lieu d'en tenir compte pour déclarer ou non un certain nombre de flux à la TVA.
Alors ensuite, plusieurs questions sur la phase pilote et ça mérite peut-être qu'on refasse un petit focus sur la phase pilote avec une première question de nous demander de redéfinir ce que c'est que l'équipe pour la phase pilote et une deuxième question de savoir si c'est possible de démarrer finalement de manière un peu anticipée avec des formats type FactureX sur une base volontaire. Je ne sais pas si c'est Marvin ou Claire qui peut prendre cette question.
Alors, peut-être sur la partie format des factures. Sur la partie des formats des factures, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une obligation d'émission qui va arriver, juillet 2025, septembre 2026, septembre 2027, donc on verra, qui est une obligation d'émission. C'est-à-dire qu'à partir de cette date, je serai obligé, moi, d'émettre des factures dans le socle ou hors socle via des PDP sous format structuré ou mixte. Par contre, rien n'empêche, en amont, de pouvoir déjà commencer à échanger avec mes clients des factures sous format structuré XML-UBL, XML-C2I et DIFACT, ou alors échanger des factures X. Donc, je peux très bien, à partir du 1er janvier 2024, décider avec certains de mes clients de leur dire, écoutez, moi, je vous pousse une facture X, vous aurez votre lisible, vous aurez déjà les données structurées si vous voulez commencer à traiter ces données structurées. Une condition, par contre, doit être respectée, c'est que pour aujourd'hui émettre une facture électronique, qu'elle soit sous format structuré ou non structuré, il faut en principe l'acceptation par votre client de recevoir des factures électroniques, qui peut le cas échéant être tacite lorsqu'il l'accepte et qui traite la facture. Donc bien entendu, voilà, vous êtes libre aujourd'hui de pouvoir déjà commencer à échanger ces documents-là, ces factures-là, avec vos clients, et vous n'avez pas besoin de passer via des plateformes. Vous pouvez très bien échanger une facture X directement depuis vos systèmes à destination de votre client, sans passer via une PDP ou le PPF, tant qu'on n'est pas encore dans les obligations de invoicing et e-reporting.
La deuxième partie de la phase pilote, alors donc réexpliquer comment ce qu'est une équipe pour la phase pilote.
Alors, oui, vas-y Marvin.
Peut-être je rebondis. Alors c'est vrai que la phase pilote aujourd'hui, donc on avait une phase pilote qui devait commencer dans un mois et une semaine, donc au 1er janvier 2024. Qui était basé sur un pool de candidats assez restreint avec une équipe qui était liée autour donc, d'une PDP, d'un chef de file et différents partenaires pour pouvoir échanger. Cette phase pilote, avec le report de la réforme, on a eu un atelier courant octobre pendant lequel l'administration fiscale est venue nous indiquer que finalement la phase pilote était décalée sans nous donner de précision réellement complémentaire sur quelles seront les nouvelles modalités et qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va rester vraiment figé. Ce que l'on sait, c'est qu'elle aura lieu courant 2025. Comme Claire le rappelait, on aura une période de qualification en amont de la phase de production qui sera une période réelle en principe, c'est-à-dire que normalement, lorsqu'on passe en phase pilote dans le cadre du PDP et PPF demain, on est sur des flux en prod. On n'est pas sur de la qualification, on est vraiment sur un environnement de production. Qu'est-ce qui va changer concrètement derrière? Je ne saurais pas vous dire. On a potentiellement, l'administration fiscale souhaite élargir le panel des entreprises, limité à 300 à la base. Elle souhaite le généraliser en principe à un maximum, et donc potentiellement l'ouvrir à tous. Il faudra très certainement continuer à déposer, comme Claire le disait, un cahier des charges, plutôt un dossier pour justement présenter quels sont les flux, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre avec qui. Pour qu'elle ait une vision claire des volumes, des cas qu'elle va pouvoir tester et recéter également de son côté. Donc la définition d'une équipe, vraiment, c'est se dire, c'est vous, en tant que pilote, votre plateforme et des partenaires avec qui échanger des flux de facture. Okay. Et les modalités à préciser courant 2024.
Ça marche, merci beaucoup. Une question sur les formats. La question, c'est de savoir si les formats qui étaient prévus dans la réforme initiale, donc les trois formats UBL, C2I et FactureX, restent inchangés malgré le report et qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui?
Oui, la réponse est oui, ça reste inchangé. On maintient le socle des trois formats, je dirais surtout deux formats et un format dérivé, le format XML, C2I, XML, UBL et la FactureX qui contient des données structurées en XML. Donc, ça reste dans le socle. Il est maintenu aussi la possibilité de pouvoir échanger d'autres formats structurés ou mixtes via des acteurs privés, notamment de les DIFACT, à condition que, donc, comme je le disais, ça passe entre deux PDP, la PDP à l'émission qui extraira les données de la facture en DIFACT, les convertira dans un format XML et les transmettra au PPF pour transmission à l'administration fiscale. Et donc les formats restent inchangés, à noter que ce sont des formats de toute façon de la norme européenne et qui ont vocation également à être appliqués dans un certain nombre d'États dans le cadre de la généralisation de ces obligations en Europe. L'Allemagne qui a annoncé également vouloir autoriser le pendant de FactureX, Zugpferd, en Allemagne, dans le cadre de son obligation.
D'accord. Bien, je pense, sauf si vous me dites le contraire, qu'on a fait le tour, en tout cas, des sujets des différentes questions. Donc, je me propose de terminer ce webcast. Merci beaucoup à tous pour votre participation. On refera le point sur l'ensemble des questions qu'on a reçues parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse toutes les voir à l'écran et si nécessaire, on reviendra vers vous spécifiquement. On refera un point d'actualité puisque comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et qui continuent à évoluer. Donc, on refera un point d'actualité au premier semestre 2024. En attendant, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions spécifiques ou refaire un point selon votre contexte. Et on vous souhaite une belle journée. Et je vous demande, par contre, si c'est possible, de prendre juste une minute pour répondre au questionnaire d'appréciation qui a dû apparaître sur vos écrans. Et pour pouvoir nous donner un peu un retour sur les éléments qu'on a pu vous partager. Et en attendant, bah, écoutez, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.